film magnifique. J'ai pas vu le temps passer. Je savais ce que racontaient les carnets, je connaissais quand même un peu l'histoire de Douai pendant la Première Guerre mondiale et j'ai été happé par l'histoire. Je trouve que l'équilibre entre les reconstitutions qui sont bien faites et qui sont sobres et les images d'archives est remarquable et tout ça au service d'un récit clair, limpide et qu'on suit comme une aventure.
Une histoire oubliée que l'on redécouvre.
Exactement, et c'est finalement le destin d'une partie de la France pendant la guerre de 14. On a beaucoup raconté l'histoire des tranchées, on a beaucoup raconté l'histoire de la France non occupée, mais cette France-là était un peu dans l'ombre et ce film raconte enfin son histoire. On ne peut faire qu'un parallèle avec l'Ukraine, avec Gaza, avec toutes les villes qui souffrent aujourd'hui où des gens se cachent dans les décombres, forcément. On dit que cette histoire ne raconte malheureusement pas que le passé. Elle parle peut-être un peu aussi du monde d'aujourd'hui.
C'était Frédéric Chéreau, hier, juste après la projection en avant-première du confiné de 14-18. Et nous reviendrons sur cette projection. Bonjour, bienvenue, nous sommes en direct depuis le cinéma Majestic à Douai pour vous faire vivre cette deuxième journée du Festival international du grand reportage d'actualité. Avec moi, Carole. Bonjour, Carole.
Bonjour à tout le monde. Bonjour, Hervé.
Bonjour, bonjour. Et puis Antonin. Salut, Antonin.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à vous deux.
Antonin qui a fait le plein, véritablement, aujourd'hui, de reportages.
Oui, c'est ça. À la base, je voulais en voir 4. J'en ai vu que 3, mais 3, c'est déjà bien.
Ouais, mais 3 plus de plus de 40, quoi.
C'est ça.
Voilà. Impossible de toute façon de voir tout ce qu'on nous propose dans ce festival.
C'est tellement dense et puis il faut faire des choix et c'est parfois difficile.
Ouais, c'est un peu l'école également de la frustration. On va parler du programme de cette émission. Notre invitée, elle nous rejoint dans quelques minutes, c'est Virginie Herz, rédactrice en chef du service reportage France 24. Elle a été également l'année dernière présidente de jury dans la compétition Moins de 40, ici au FIGRAM. Elle a également une carrière de reporter international dont elle pourra nous parler. Mais avant de la retrouver et puis de vous écouter à propos des divers documentaires que vous avez pu visionner, l'une et l'autre, on va revenir donc sur cette soirée hier. C'était à l'Hippodrome de Douai. En ouverture de ce festival, était proposé un docu-fiction. Alors c'est un genre qui normalement ne fait pas partie des genres sélectionnés ici au FIGRAM, mais l'occasion était trop belle puisque le confiné de 14-18 est né de la retrouvaille des carnets d'Achille Bourgin. Achille Bourgin était postier à Douai. Il avait une trentaine d'années quand la Première Guerre mondiale arrive. Et ce qu'on a oublié dans l'histoire, c'est que pendant cette Première Guerre mondiale, on a vécu également ici, dans le Nord, sous l'occupation allemande. Et il a fui l'occupant allemand, il a résisté à l'occupant allemand et qui recensait tous les hommes en âge de se battre. Et donc, il a dû vivre caché pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, il a écrit au jour le jour, un journal pour nous faire vivre la vie de Douai entre 14 et 18. Alors, ces carnets, il n'en a jamais parlé à sa famille et ils ont miraculeusement été retrouvés par des compagnons d'Emmaüs. Voilà. Et la ville de Douai, qui a entendu parler de ça, s'est portée forcément acquéreur des carnets qui, maintenant, sont propriété de la ville et sont aux archives municipales. Alors, ça a donné l'idée, ça, de faire un film. Ça donne donc ce documentaire, le confiné de 14-18. C'est un film réalisé par Frédéric Monteil que j'ai rencontré, bien évidemment, juste à l'issue de la projection. Je vous propose de l'écouter.
C'est une grande fierté, c'est un honneur d'être projeté en avant-première du FIGRAM et en plus d'avoir un film qui raconte une histoire forte en lien avec Douai. C'est formidable.
Comment vous avez, vous, pris possession de la vie d'Achille Bourgin à travers ses carnets?
Ça a été un processus assez lent. En fait, je me suis rendu sur place à Emmaüs, à Longjumeau, dans l'Essonne, là où il y avait les carnets entreposés au tout début, quand ils ont été découverts. Et là, j'ai feuilleté et j'ai eu un coup de cœur coup de cœur pour l'écriture, coup de cœur pour les images, les illustrations, le volume incroyable. Et puis, il y avait tout un tas de mystères autour de ces carnets. Qui est l'auteur? Comment se fait-ce que les carnets ressurgissent subitement plus d'un siècle après la guerre? Et ensuite, il a fallu rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire déchiffrer l'écriture d'Achille, page par page. Il y a 2000 pages. Ça m'a pris 3 mois rien qu'à les lire.
Et puis ensuite, ces carnets sont devenus donc propriété de la ville de Douai, sont aux archives de la ville de Douai. Et là, vous allez rencontrer des gens qui peuvent être également des personnes capables d'éclairer de façon différente ce qui était écrit dans ces carnets.
Exactement. En allant aux archives municipales de Douai, j'ai rencontré Ophélie Gérard et toute son équipe. Et elle avait, elle aussi, les mêmes questions que moi. Qui est cet auteur? D'où vient-il? Et existe-t-il par hasard des descendants? Et Ophélie Gérard, elle a tout un tas d'outils, elle maîtrise parfaitement la généalogie. Elle a réussi à retrouver rapidement les héritiers. Là, il a fallu attendre un long moment qu'ils nous répondent. Et quand ils nous ont répondu favorablement, en disant qu'ils étaient tout à fait disposés à ouvrir leurs archives, alors là, on a enfin pu mettre un visage sur ce nom mystérieux d'Achille Bourgin. En fait, il avait plein de photos dans une vieille malle. Et en fait, ce vieil album de photos, c'est surtout dû au fait que le père d'Achille, Jean Bourgin, lui-même était photographe.
Cette histoire qui débute il y a 110 ans de cela est une partie oubliée de notre histoire.
C'est une partie absolument méconnue de l'histoire de France. C'est l'histoire de tous ces civils qui se sont retrouvés sous l'occupation allemande durant la Première Guerre mondiale. Tout le monde connaît l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale, mais on a tous oublié ce destin tragique pour ces hommes et ces femmes qui se sont retrouvés avec un régime militaire, avec des règles, des lois, des normes, des amendes, une interdiction de quitter les villes. Finalement, tous ces civils, 2 millions de personnes, 10 départements occupés, étaient comme des prisonniers à ciel ouvert.
Votre film, il résonne également dans une actualité où ça nous renvoie à la condition des civils pris au piège du conflit armé.
Exactement. Moi, ça me fait beaucoup penser, à quand je lis Achille Bourgin, à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est-à-dire, on a une guerre dont on pensait qu'elle serait courte et qui finalement s'étale dans le temps. On a offensive, contre-offensive, on a des rumeurs, on a des armes nouvelles qui sont utilisées. Et puis, toutes ces populations civiles qui se retrouvent, ben là, en Ukraine, sous l'occupation des Russes. C'est vraiment, le parallèle, il est très fort.
Le choix entre la reconstitution et les images d'archives, il fallait pouvoir raconter l'histoire et avoir suffisamment de matière.
Voilà, alors le récit d'Achille, c'est un récit à la première personne du singulier. Il raconte vraiment sa vie intime. À partir de là, c'était difficile pour moi d'illustrer ça uniquement avec des photos d'archives, de vues générales de la ville de Douai ou de films tournés par les Allemands. C'était un peu impossible à tenir. Alors très vite, je me suis dit, c'est pas possible, il faut aller à fond dans les reconstitutions. Et on est parti avec une équipe originaire des Hauts-de-France, des comédiens des Hauts-de-France. Et je trouve qu'ils ont tous été énormément impliqués parce que c'est aussi leur histoire.
Achille Bourgin, c'est un résistant à sa façon.
Pour moi, à titre personnel, je dirais que c'est un résistant à sa façon, avec les moyens du bord. Comme il le dit, que pouvions-nous faire face à des milliers d'Allemands? En fait, s'il sortait dans la rue avec un couteau ou un pistolet, il tentait un acte classique de résistance, il était abattu sur le champ. Or, il avait ses parents, sa sœur, il avait sa femme, sa fille. Moi, j'ai beaucoup pensé à ça, je me suis un peu projeté, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais fait moi aussi? Et ce film pose cette question-là. Et je pense qu'il a résisté avec les moyens du bord. Écrire était un acte de résistance. Il a aussi fait, et je n'ai pas eu le temps de le dire, un petit journal, une ou deux pages, qu'il écrivait à la main et qu'il donnait aux autres postiers qui étaient comme lui, piégés, coincés à Douai. Donc pour moi, oui, c'est un résistant modeste, mais un résistant quand même.
C'est un lettré qui écrit bien, qui a le sens de la formule, et sa colère, elle devient encore plus forte parce qu'elle est exprimée à ce moment-là avec des mots qui sortent un peu du rang ou de la ligne.
Exactement, par rapport à d'autres gens qui ont témoigné sur la Première Guerre mondiale, et il y en a eu d'autres qui ont écrit des carnets comme lui, des institutrices notamment, des professeurs de lettres. Il a son style, et il a un style avec des punchlines, et ça déménage, et on est assez scotché, et on l'écoute en fait. Enfin, moi je l'ai lu d'une traite quasiment, parce que c'est bien écrit, on a envie de savoir la fin. Et son style, forcément, ça joue beaucoup dans ce récit, quoi.
Alors forcément, il y a eu beaucoup de carnets de poilus qui sont revenus des tranchées, là, cette fois-ci, qui ont décrit l'horreur de ces 4 ans de guerre. Ils ont tout autant de valeur, une autre souffrance, une autre expérience, mais une valeur égale à ces carnets.
Bien sûr, et je pense qu'il ne faut pas forcément faire de comparaison dans la souffrance. Je veux dire, ce qu'ont vécu les poilus, c'est l'innommable, et c'est vraiment absolument terrible, et c'est difficile à imaginer aujourd'hui, de nos jours. Mais néanmoins, ce qu'ont vécu les civils pendant 4 ans, ils sont privés de nouvelles, ils sont privés de nourriture, ils sont privés de liberté. Ils ne savent pas, pour certains, pendant 2, 3, 4 ans, ce qu'est devenu leur frère ou leur mari envoyé au front. Certains sont devenus fous. Il faut quand même bien avoir ça en tête, hein, dans les civils. Ils ont eu aussi un lot de souffrances terribles. En plus, il y a eu des viols aussi par les militaires allemands. Donc voilà, je crois qu'il y a eu une grande souffrance, et que cette souffrance-là, jusqu'à présent, on avait tendance à tendre le micro ou tendre l'oreille aisément, et c'est naturel, aux poilus. Là, c'est bien aussi, je trouve, qu'on écoute un peu tous ces gens qui ont souffert en silence, qui sont les populations civiles du nord et de l'est de la France.
Ça me sert des privilégiés, on a vu le film, le grand public va le découvrir où, quand, comment?
Alors, ce film a été projeté là en avant-première, à titre entre guillemets exceptionnel. Il sera diffusé pour la première fois à la télé le 11 novembre prochain sur Planète Plus, et ensuite mis sur les plateformes de Canal Plus.
On a vu la version finale?
Oui, vous avez vu la version finale, celle qui sera diffusée le 11 novembre.
Et aujourd'hui, vous travaillez sur quoi ?
Aujourd'hui, je travaille sur d'autres projets, pas toujours des histoires forcément très drôles. Je travaille sur un projet, sur un train qu'on a surnommé le train de la mort. Et c'est une histoire très très dure de la Seconde Guerre mondiale. Je vous en dis pas plus. Merci.
Voilà, c'était donc Frédéric Montiel, le réalisateur, auteur de ce docu-fiction, Le Confiné de 14-18. Moi, j'étais véritablement impressionné par les archives, des photos de Douai que je n'ai jamais vues, des mesures également qui étaient prises contre la population civile. Par exemple, il y a eu un impôt mis en place par l'occupant sur les chiens et les chats. Voilà. Et nombre d'occupants ont dû, à ce moment-là, donner leurs chiens et leurs chats à se faire abattre par les armées allemandes. Et on ne sait pas véritablement c'était pour faire quoi. Également, toutes les récoltes qui étaient également prélevées par l'occupant. Une population qui a véritablement été touchée dans sa chair et qui, pour passer de l'autre côté de la ligne, devait... C'était impossible, il fallait passer par la Belgique, ensuite les Pays-Bas, aller jusqu'en Angleterre et revenir après par la Normandie. Un film qui éclaire vraiment, il faudra être patient jusqu'au 11 novembre. On peut souligner quand même le pas de côté de Planète qui décide finalement, pour commémorer l'armistice, de diffuser ce pan méconnu de l'histoire. Ça donne envie?
Ah oui, oui, totalement, totalement. J'avais suivi le reportage que Radio Oscar Sensé avait fait à propos de l'histoire de ces carnets. Ouais. Et c'était déjà, moi, des grands yeux. Et puis après, quand j'ai entendu qu'il allait y avoir un documentaire, je n'attends que ça. Hier, je n'ai pas pu aller voir ce documentaire. Donc,
Alors évidemment, beaucoup de Douaisiens dans la salle qui ont fait une ovation au film, qui de toute façon le mérite, et en plus projeté en présence des descendants d'Achille Bourgin, ce qui fait encore un peu plus de sens.
C'est ça. Allez. Juste un petit mot pour... Oui. Voilà. J'avais eu l'occasion d'en rencontrer l'archiviste qui a travaillé donc, avec le réalisateur, et c'était très intéressant la manière dont elle expliquait comment... ont été un peu retrouvés ces archives, donc comme tu as pu l'expliquer. Et d'autant plus, j'avais très envie de le voir, parce que tu me l'avais un peu vendu à l'avance, Hervé. Ouais. Et malheureusement, j'ai pas pu le voir, donc je le rattraperai dès que possible.
La séance de rattrapage pour tout le monde sur Planète, le 11 novembre, et puis ensuite sur les plateformes de streaming de la chaîne Canal. Antonin, dis-moi, oui. Tu vas nous parler, du Parrain des Océans.
C'est exact. Donc, documentaire réalisé par Hugo Van Hoffel et Martin Boudot. J'espère que j'ai pas mal prononcé les noms. Donc, le documentaire s'intéresse et traite du trafic de totoaba. Donc, le totoaba, c'est un poisson qu'on peut retrouver dans le golfe de Californie au Mexique et qui est très prisé par la médecine traditionnelle chinoise pour des vertus dites miraculeuses, je précise dites avec de gros guillemets, car rien n'est prouvé et d'autant plus le documentaire ne veut pas s'attarder sur ces potentiels dires. Mais le documentaire s'attarde surtout c'est sur les trafics mexicains qui en ont fait un véritable marché. Donc, dans le golfe de Californie, c'est les cartels qui ont pris la main sur surtout la ville de San Felipe, où ben, tout simplement le cartel fait la loi sur la ville mais aussi sur les mers. Donc beaucoup de bateaux pour la protection des espèces sont fait attaquer. Et par ailleurs, dans le documentaire, on peut voir les cartels eux-mêmes donc prendre la parole pour expliquer comment ils font, quels moyens ils utilisent pour faire passer ce poisson à l'étranger. Mais il faut savoir aussi que, comme me l'a expliqué le réalisateur que j'ai eu l'occasion d'interviewer, c'est que les cartels prennent la parole pour un peu se dédouaner, parce que les véritables responsables, c'est la triade chinoise qui est à la tête de ce trafic. Et surtout, lors du documentaire, le réalisateur a eu l'occasion d'entrer chez Interpol, qui l'ont justement aidé. C'est une sorte de collaboration tout au long du documentaire, et pour mettre le doigt et la lumière sur le véritable parrain de cette organisation, donc que je me trompe pas de nom, c'est Jun Chan Woo, et donc qui est sous une notice rouge d'Interpol, donc qui est activement recherché. Et à la fin du documentaire, on n'a toujours pas de réponse de où il est. Mais à noter quand même qu'on nous dit qu'un des, l'une des têtes du cartel mexicain a été arrêtée depuis, et de certaines activités ou en tout cas systèmes mis en œuvre par le gouvernement mexicain a été réalisé depuis, et donc ça c'est un point positif.
Quelque chose que tu ne connaissais pas du tout.
Exact. Même j'en ai posé la question au réalisateur, c'est que même lui n'était pas au courant de ça avant d'être contacté par Interpol pour ses travaux précédents.
Voilà. Alors Martin Boudot, qu'on connaît bien, qui a réalisé de nombreux documentaires, notamment pour la série Vers d'Orage, me semble-t-il, et qui a enquêté ici du côté de Metal Europe. On va rester dans le domaine des océans, plus ou moins, et de la pêche, si je me permets une transition facile, Carole.
Alors oui, pour moi, hier, c'était Radia sur l'Atlantique de Nicolas Van Ingen. J'y suis allée parce que c'était un sujet qui me plaisait comme ça, et puis voilà. Et alors, je suis restée vraiment parce que c'est un documentaire qui a une force. En fait, nous sommes au Sénégal et on va, dans ce documentaire, en un peu plus de 50 minutes, vous expliquer les enjeux de la mondialisation et l'industrialisation et la surexploitation des fonds marins. On parle de changement climatique. Et en fait, là, on a un monde du poisson, donc des pêcheurs sénégalais. Il y a même un leader syndical. J'ai trouvé ça très intéressant de voir la figure du leader syndical sénégalais qui parle de son métier, qui parle d'une force de convaincre. Et puis, on se pose la question, mais où sont passés les poissons ? Alors, ça pourrait être le titre d'une chanson. Mais là, non, en fait... Le documentariste déroule des tas de dates où, en fait, notre Europe fait des accords pour s'accaparer les stocks de poissons du Sénégal.
Complice, en quelque sorte.
Je vais dire qu'on passe de l'esclavage au colonialisme, à le pillage des richesses. Voilà.
La loi du marché.
Voilà, la loi du marché. J'en reviendrai sur cette loi du marché. Il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellée. Et donc, il y a des accords européens qui se font régulièrement entre l'Europe et les politiques du Sénégal. On en arrive à un chiffre étonnant. Ces bateaux industriels pêchent 6000 tonnes par jour de poissons. Alors, si je me souviens bien, les pêcheurs faisaient 6000 tonnes par an, quelque chose comme ça. Donc, c'est un truc qui est affreux. Et donc, on est sur le visage de... L'Europe les exploite. Alors, il y a même à un moment donné une usine de farine de poisson. Alors là aussi, c'est pourquoi faire de la farine dans un pays où ils mangent du poisson? Ah ben non, c'est pour l'Europe, puisque cette farine de poisson, mesdames, messieurs, quand vous allez manger du poulet qui est vraiment tout petit et vraiment pas cher, parce que vous avez l'impression de faire une bonne affaire, il est nourri à la farine de poisson qui vient du Sénégal et qui empêche les Sénégalais de vivre de leur pêche. Donc il y a tous ces petits moments de cercles vicieux qui sont importants, qu'on nous propose. Et puis on en arrive à les hommes de 15 à 35 ans, les hommes sénégalais de 15 à 35 ans ont disparu du Sénégal. Bon, ils ne sont pas morts, hein. Si, pour certains, parce qu'ils sont essayés d'aller vers l'Eldorado européen qui leur pique tout. Et ils sont morts, pour certains, en venant jusqu'en Europe. Il y a ce témoignage très poignant de cette maman. Waouh, c'est vraiment terrible. Donc la mer, c'est non seulement l'endroit qui donne les poissons, mais c'est aussi un cimetière. Et la beauté de ce documentaire, c'est la fin avec... je fais la boucle avec ce pêcheur boulonnais, donc un Sénégalais qui est installé à Boulogne, qui explique son parcours.
Boulogne-sur-Mer.
Comment ?
Boulogne-sur-Mer.
Boulogne-sur-Mer, oui. Donc il met ses bottes pour aller sur un bateau. Il était patron pêcheur auparavant, il était son propre patron. Et aujourd'hui, il travaille pour un patron. Il continue à travailler de la mer parce que c'est dans son, j'allais dire, dans son ADN. Et donc voilà quoi. Alors, il y a Donald Tusk, quand il était président du Conseil européen, qui conseillait aux étrangers de ne pas venir en Europe. On fait comme on peut. Et puis, il y a cette petite phrase d'un agroécologiste dont j'ai oublié le nom, qui dit que nous avons choisi un modèle de société basé sur la croissance qui exploite la planète pour une infinitésimale population qui s'enrichit sur le dos de l'humanité. Donc la prochaine fois que vous aurez des petites velléités contre des gens qui viennent en Europe, réfléchissez à ça. Et puis je vous conseille, puisque moi j'ai le côté aussi cinéma, je vous conseille de voir le film Soy Capitaine ou Moi Capitaine de Matteo Garrone, qui était à l'Arras Film Festival. Voilà.
Merci Carole.
Radio Scarpe-Sensée.
Nous a rejoint ici sur le plateau notre invitée Virginie Hertz. Bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Je vous voyais réagir à ce que nous racontait Carole à propos de ce documentaire. Vous allez en voir beaucoup, vous, également des documentaires.
Alors, 17, effectivement. Moi, je vais faire les entretiens. Enfin, je mène les entretiens avec les réalisateurs des films sélectionnés pour les documentaires de plus de 40 minutes. Donc, il y en a 17.
Voilà, on va vous présenter. Je vais essayer de faire court. Vous êtes actuellement rédactrice en chef du service reportage à France 24. Vous fûtes également grand reporter. Vous avez une formation en géopolitique et une école de journalisme. Et militante pour l'égalité de façon très large. Et on va parler un petit peu de tout ça. Alors, si on commence, alors on va juste rappeler que sur France 24, vous avez lancé Actuel.
Absolument. Actuel, donc, qui est une émission sur les droits des femmes, une émission féministe, en fait. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Et donc, c'était avant MeToo. Et la grande fierté, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, j'étais donc grand reporter, mais je voulais arrêter le reportage. Enfin, je voulais passer à autre chose. Et à ce moment-là, quand je proposais l'émission, la plupart des gens autour de moi, des collègues, me regardaient en disant, mais sincèrement, mais ah bon, droit des femmes, mais c'est totalement ringard, quoi. En fait, c'était vraiment le regard que ça a, enfin, c'est inspiré, mais enfin, c'est un placard, grand reporter, c'est ultra prestigieux. Tout d'un coup, tu veux te mettre sur les droits des femmes. Ça ressemblait à un passé, enfin un combat d'arrière-garde. Et voilà, j'ai continué. Je me suis dit non, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. D'autant plus qu'en tant que grand reporter, ayant été dans plein de pays, je m'étais aperçue non seulement que dans le monde entier, en fait, la condition de femme était encore extrêmement problématique, comme on le voit d'ailleurs dans certains des documentaires là. Et puis voilà, et puis accessoirement, j'ai 3 sœurs, on est une femme de 4 filles. En plein de choses, quoi. Et puis je me suis dit non. Et surtout, donc, la grande fierté, c'est que cette émission existe en français, en anglais, en arabe et en espagnol, puisque France 24, c'est une chaîne qui diffuse en 4 langues, donc avec 4 présentatrices différentes. Et donc, à chaque fois, on adapte un petit peu l'émission au bassin d'audience, parce qu'il va y avoir des sensibilités différentes, mais toujours avec, évidemment, les mêmes valeurs de défendre les droits des femmes.
Ça renvoie ça à une sorte de responsabilité sociale du journaliste qui doit être là également pour faire avancer la société.
C'est l'essence même probablement de notre ouais. métier. Je sais qu'il y a deux conceptions de voir le journalisme en se disant, ben voilà, c'est objectif, il faut être objectif, il faut toujours montrer tous les points de vue, etc. Mais puis après, en même temps, l'objectivité, oui. Enfin, quand on représente la moitié de l'humanité et qu'objectivement, on voit que la moitié de l'humanité continue à être discriminée, c'est objectif d'en parler et puis d'essayer de mettre le doigt là où ça fait mal, en fait.
Vous dites également qu'il faut employer les bons termes. Voilà. Ne parlons pas de victimes de violences, mais de survivantes.
Oui, alors ça vient beaucoup. Alors ça, c'est donc venu surtout après MeToo, en fait. Tout le mouvement MeToo qui s'est développé, donc dénoncer les violences sexuelles envers les femmes. Et ça vient beaucoup du monde anglo-saxon qui insiste beaucoup plus sur le côté positif, empowerment. C'est aussi un mot qui est très à la mode, empouvoirment. Et de, en fait, ne pas se situer du point de vue de la victime, mais de dire, en fait, j'ai réussi à surmonter un obstacle et je suis encore là. Je suis là et je ne suis pas une victime. En fait, je l'ai peut-être été, mais j'ai réussi à aller au-delà. Et en fait, je suis une survivante et je peux être fière de moi. Parce que quand on est victime, souvent le cercle vicieux, c'est je suis victime et j'ai honte d'être victime.
Le choix des mots, il est aussi important que le choix des images.
Oui, bien sûr. Alors, ayant été en plus journaliste reporter d'images, ayant filmé moi-même, oui, bien sûr, les images parlent beaucoup, bien sûr. Alors, je ne sais pas à quel point il faut développer, mais oui, évidemment, la façon, ne serait-ce que la façon dont on va cadrer. Alors, sur une photo, c'est forcément très important parce qu'il n'y a qu'une image, mais après l'enchaînement des images, oui, ça va être important. Ça va être important de voir est-ce qu'on est de près, de loin, quelle est la proximité qu'on a avec les gens. Est-ce que, voilà, l'esthétique, tout simplement, les lignes de fuite. Enfin, après, il y a toute une grammaire de l'image, en fait. Je ne sais pas s'il faut vraiment développer, mais en fait, l'écriture du reportage télé, du documentaire. C'est comme la grammaire en français, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des règles. Donc, on commence par une majuscule, on finit par un point, on a ensuite une proposition principale, des subordonnées, on a différentes règles qui sont plus ou moins complexes, dont on peut se libérer aussi, parce que si on veut être créatif, etc., mais la base, c'est de les connaître. Et donc, oui, l'écriture, aujourd'hui, on a moins cette impression, parce que finalement, avec un smartphone, on peut filmer tout n'importe comment, mais non, il y a des règles. Et la façon dont on va tourner va transmettre quelque chose.
Aujourd'hui, vous êtes là, ici, en qualité donc d'animatrice de débat. Ces questions, elles se posent autant sur la question du point de vue, la façon dont c'est filmé, le choix, où ça fait partie des débats, ou alors les débats se concentrent essentiellement sur le fond qui est traité.
Oui, alors je pense que ça, c'est sur la façon dont le récit va être, la narration, etc. C'est plus des choses qui se discutent, par exemple, quand on est membre du jury. Ce que j'étais l'année dernière, où là, il va y avoir plusieurs critères qui vont être pris en considération, le sujet, la façon dont c'est amené, etc. Là, en fait, je suis animatrice, mais surtout, en fait, j'essaie de donner la parole au public. Et finalement, c'est comme quand on va voir un film de fiction. Qu'est-ce qu'on retient avant tout ? C'est l'histoire. C'est pas tant la façon dont l'histoire a été racontée, mais c'est l'émotion. C'est ce qui nous a marqué. Donc finalement, c'est un peu technique quand même de rentrer dans le récit. Donc, comme on a un public vaste et un public aussi beaucoup scolaire, il peut y avoir aussi des questions. Enfin, on va vraiment à l'essentiel sur l'histoire, en fait, plus que la façon de raconter l'histoire.
France 24, c'est une chaîne d'information. C'est pas une chaîne d'information en plateau. C'est une chaîne d'information qui sort quand même pas pas mal et qui propose justement d'amener le monde dans l'écran.
Alors, il y a du plateau aussi, puisqu'il y a des informations, il y a des débats, il y a des experts, etc. Mais effectivement, dans l'ADN de France 24, le reportage est au cœur de notre métier. L'idée, c'est vraiment, en fait, on s'adresse à un public, on va dire, international un peu partout dans le monde, mais on couvre surtout l'actualité internationale. Donc ça veut dire l'actualité internationale, ça peut être effectivement des experts qui vont débattre, de la géopolitique, et puis après, ça va être des reportages un petit peu partout dans le monde, réalisés soit par des journalistes de France 24 qu'on envoie, ou bien par des correspondants qui sont un peu basés partout, parce qu'on a un réseau de correspondants assez important.
Ça coûte cher quand même, et plus cher que d'envoyer des gens faire du reportage, du documentaire à l'autre bout de la planète.
Alors oui, ça coûte cher, effectivement, et c'est une problématique qui se pose dans toutes les chaînes, en fait, ouais. De plus en plus. Le reportage, de façon générale, coûte cher, et le reportage international, ça coûte cher. Et j'aurais même tendance à dire, ça coûte cher, et maintenant, il y a aussi une considération qui est l'empreinte carbone. Ça peut paraître un petit peu accessoire, mais donc voilà. Donc par exemple, quand il y a une actualité, alors quand on a un réseau de correspondants assez important, donc, la première chose, c'est qu'en principe, on fait appel aux correspondants. Et après, on va envoyer quand il y a vraiment une actualité très importante en renfort, ou bien quand les reporters de Paris viennent avec des idées, ou parce qu'ils ont développé des contacts particuliers, privilégiés, et qu'ils viennent, enfin voilà, ils viennent avec une intention. Et dans ce cas, on peut aussi les envoyer. Mais effectivement, on équilibre entre les deux.
Vous présentiez également hier soir cette cérémonie d'ouverture dans laquelle il a été forcément question de la réforme de l'audiovisuel public actuellement en cours en France. Et on a quand même sorti une certaine inquiétude des professionnels. Est-ce que la holding du service public radio, télé, ensemble, c'est quoi ? C'est moins de moyens au final ?
Il y a
de vraies craintes là-dessus ?
Oui, il y a des vraies craintes parce que c'est un projet. En fait, l'argumentation, ne pas dire la justification de ce projet, c'est de dire on est dans un univers médiatique en transformation. On voit de numérisation, de digitalisation, on voit bien que les usages ont changé, que les jeunes, si on veut leur parler, il faut plutôt être aussi sur TikTok et aussi sur Instagram, etc., etc. Et que potentiellement, on peut faire des synergies, être plus fort et redéployer certaines ressources, etc. Bon. Et c'est un projet qui existe depuis longtemps, c'est un serpent de mer, je ne vais pas refaire tout l'historique. Pourquoi pas, ça se discute. Après, la façon dont ça a été remis à l'agenda est un peu précipitée, il n'y a pas forcément de vision stratégique et pas forcément d'études d'impact. Donc effectivement, ça inquiète, parce qu'au final, le vrai nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est avoir un budget consacré, indépendant, pérenne. Et c'est là-dessus qu'il va falloir se battre, holding, pas holding. Et puis après, quand on est un peu plus petit, c'est-à-dire comme à France 24 ou bien la radio, en termes de ressources, de moyens, etc., et qu'on se dit holding, on sait que quand on rentre petit dans une structure plus grande,
ouais.
C'est pas terrible.
D'autant plus que ces rapprochements, ils existent déjà de fait. On voit très bien les France 3 locales travailler avec le réseau France Bleu, France Inter, entre autres, France Culture avec France 4, France Télévisions de façon générale.
Oui, il y a des synergies déjà qui se font. Et puis, il y a même ce que je vais dire produits, ou en tout cas des productions communes. Par exemple, Culture Prime, donc c'est que vous pouvez trouver sur Insta notamment, c'est des productions qui sont faites à la fois par France Culture, RFI, je pense aussi, Radio France Internationale, France 24, je pense que France Télévisions aussi fait de temps en temps. C'est donc en fait se dire, tiens, on a des sujets culture ou on a des zooms culture qu'on a fait en télé, en web, enfin en télé, en radio ou autre, c'est pas mal, on va tout partager sous un même label, Culture Prime. Voilà, il n'y a pas de synergie derrière, il y a des synergies, mais il n'y a pas besoin de faire une holding pour avoir ça. Et on peut progressivement, effectivement, se dire, on met en commun des choses et on essaie de mettre en valeur en commun certaines choses.
Je vous ai retrouvé dans mes recherches en Libye à l'époque où était lancé le mandat d'arrêt en quelque sorte contre le colonel Kadhafi. Oui. Et vous utilisiez là véritablement le conditionnel, en disant on ne sait pas, on pense qu'il se dit. Comment on fait aujourd'hui pour rétablir la confiance entre le journaliste et l'auditeur, le lecteur, le téléspectateur? Il y a une défiance aujourd'hui, plus qu'une méfiance vis-à-vis des journalistes.
Oui, parce que déjà, dans enfin, disons qu'il y a beaucoup de... Alors déjà, ne serait-ce que dans la télé ou dans beaucoup de chaînes, des gens se disent journalistes, mais sont plus éditorialistes. Et donc déjà, c'est difficile. Ensuite, les gens associent la télé à même un animateur, c'est un journaliste. Non, tous les gens qui passent à la télé ne sont pas des journalistes. Journaliste, ça veut dire quelqu'un qui vérifie ses informations à des sources, et s'il n'en a pas, il dit bah là je peux pas vous répondre, je peux pas aller au-delà de ça, j'ai pas pu vérifier, etc. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un problème, enfin, ou en tout cas c'est une des sources du problème. Ensuite, l'autre chose, c'est que maintenant sur les réseaux sociaux, quand moi je suis souvent, enfin quand j'interviens dans des classes ou même avec des gens autour de moi, je dis mais comment tu t'informes? Bah oui, j'ai vu sur internet, ou j'ai vu sur Twitter. En fait, c'est beaucoup de gens confondent le média et la source, en fait. Donc, en fait, après, c'est aux médias ou aux rédactions de créer des marques fortes de confiance et de savoir que, bah oui, non, sur Twitter, on peut avoir des bonnes informations. Sur TikTok aussi, si on va voir, j'en sais rien. Alors, je cite comme ça, BBC, Le Monde est sur TikTok, Arte. En soi, c'est pas un problème d'être sur tous ces réseaux. Mais par contre, il faut réussir à distinguer ceux qui donnent leur opinion et ceux qui cherchent des informations et transmettent des informations.
Carole.
Alors, moi, je voulais dire que je travaille un peu de MI avec mes élèves, et dans une classe de seconde, je les ai fait travailler sur « Vos visages nous appartiennent ». Qui est passé l'année dernière et qui est aussi...
qui est sélectionné.
Qui est sélectionné cette année. Et... donc j'ai un groupe, parce qu'ils voient le documentaire, puis après ils travaillent sur quel sujet, quelle problématique ça vous... Il y a un petit truc qui vous dérange, une question, et que vous voudriez travailler. Et j'ai un groupe qui a travaillé sur l'information est-elle neutre. Des élèves de seconde, un groupe de deux, ils m'ont scotché. Ils ont vraiment joué le jeu sur cette notion-là. Alors ce documentaire-là, il a fait travailler sur l'intelligence artificielle, ça a fait travailler sur la reconnaissance faciale. Il y en a même, puisque on parle de problèmes avec les Noirs américains, il y en a même qui ont parlé de Lives Black Matter. Donc on est parti vraiment dans tous les sens. Et je me dis, je suis super contente, quoi, d'avoir travaillé ce documentaire-là avec des élèves, et où une grande partie a vraiment joué le jeu, a fait des dossiers. Ils ont fait des dossiers super, ils ont fait des oraux super. Mais il y a dans ce groupe qui a travaillé l'information est-elle neutre, ils ont vraiment dit à leurs camarades. Mais attention, là, même dans votre dossier, on est certain que vous avez trouvé des sources qui ne sont pas bonnes. Donc, voilà, c'est...
Alors, le problème des sources, c'est effectivement, voilà. c'est essentiel. Enfin, c'est au cœur du métier de journaliste. Donc, l'information est-elle neutre? C'est compliqué. Enfin, on pourrait en débattre assez longtemps. Après, c'est quelle hiérarchie on met dans l'information. Voilà, c'est plutôt ça aussi. C'est-à-dire que dans une chaîne ou dans un journal, qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Parce que finalement, on peut tout traiter, mais qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Même si on fait purement que de l'information, quelle place on va consacrer à ce qui se passe à Gaza? Quelle place on va consacrer aux élections européennes? Quelle place on va consacrer à des faits divers? Voilà, ça, c'est pas neutre. Ça, c'est une ligne éditoriale. Et les lignes éditoriales sont pas neutres. Ça, c'est des choix. Voilà. Ensuite, sur les sources, ben oui, effectivement, les sources, c'est... mais voilà, c'est aussi le travail des journalistes d'investigation en particulier, mais c'est d'aller vraiment chercher la source. C'est un travail. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Tout à l'heure, on disait le reportage prend du temps, mais l'investigation, l'enquête prend beaucoup de temps, oui, effectivement.
Et j'avais une autre question, c'est sur la place des femmes à France 24. Alors, comment les femmes se situent à France 24?
Alors, je ne vais pas être porte-parole de toutes les femmes. Ce que je peux dire, c'est que nous avons une directrice de la rédaction, que la PDG du groupe France Média Monde est une femme également. Donc, ça fait ce qu'on appelle des rôles modèles. Ça peut être inspirant ou pas. Les résultats officiels de l'entreprise sur tout ce qui est critères de égalité... social, salarial et tout, semble être bon. La question se pose aussi ensuite. On est quand même très, très suivi, puisqu'il y a quand même des consignes gouvernementales aussi sur le temps d'antenne des femmes, le temps de parole des femmes à l'antenne. Donc il y a tout un travail qui est fait aussi sur trouver des expertes, des femmes. Voilà. Et c'est pas qu'il n'y a pas de femmes expertes, mais en fait, pour avoir un peu travaillé sur la question, c'est que déjà, souvent les femmes expertes disent « Ah bon, mais vous êtes sûre ? Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à la question. Enfin, je ne suis pas assez experte. » Donc il y a déjà une autocensure, c'est un peu le complexe de la bonne élève qui pense qu'elle n'en sait pas assez, alors que rarement un homme dira ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de gens que j'ai interviewés. Comme quand on propose un poste ou une promotion, une femme va souvent se remettre en cause d'abord en disant « Je ne suis pas sûre d'être prête. » Donc il y a ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la charge mentale ou la charge familiale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, autour de 19h, 20h, ben voilà, c'est encore, mais enfin voilà, les statistiques le montrent, les femmes dans les couples, on va dire, hétéro-classiques, qui prennent en charge tout ce qui est charge familiale. Je ne parle pas aussi maintenant de suivi aussi quand il y a à prendre en charge des parents, puisqu'on est dans une démographie, une démographie vieillissante, ça aussi. Donc il y a tout un. Voilà, il y a tout. Et le Covid l'a révélé. Tout ça encore reste très inégal. Et au final, il y a un vrai travail proactif pour aller chercher des femmes. Et il y a d'ailleurs des formations pour booster la confiance en elles, pour les entraîner à s'exprimer en public et pas avoir peur et puis se dégager du temps et leur dire que leur parole compte.
J'interviens régulièrement dans des écoles de journalisme. J'ai l'impression que de plus en plus, le métier se féminise du reste.
Ce qui n'est pas forcément bon signe. Alors, attention. Quelqu'un une fois m'a dit, c'était une patronne de radio qui m'a dit, ouais, mais féminisation, c'est souvent précarisation. Ouais. En fait, les féminisations, on peut pouvoir. Alors, j'ai pas étudié la question, mais si on s'attache à plusieurs métiers, souvent les féminisations s'accompagnent de précarisation des conditions de travail. Et après, je pense, oui, effectivement, il y a une majorité de femmes dans les écoles de journalisme. Je pense que la mixité, moi, me paraît importante. Plus que c'est pas, il faut pas. Enfin voilà, je suis pas. Voilà, je pense que l'équilibre est plutôt bien à voir. Bon voilà, c'est vraiment c'est une opinion, ça n'engage que moi. Mais est-ce que c'est le signe que. Et par ailleurs, ça ne veut pas dire non plus que le plafond de verre est brisé, parce qu'on peut avoir aussi, par exemple, typiquement, les filles sont au lycée, au collège, meilleures en maths que les garçons. Et puis alors finalement, après, dans les matières scientifiques, etc., dans les hiérarchies, donc quand je parlais de plafond de verre, c'est dans les carrières. Le phénomène de plafond de verre, c'est effectivement, il y a peut-être plus de femmes, et après, au poste de responsabilité, on en trouve moins, etc. etc. Donc, oui, il y a peut-être plus de filles et de plus en plus de filles. Donc, c'est un signe d'ouverture, mais bon, c'est pas forcément.
Restons vigilants pour que les conditions de travail.
En tout cas, oui. Et je pense, par exemple, je sais que ce qui m'avait frappé, moi, quand j'avais passé le concours pour entrer dans une école de journalisme, tous les jurés étaient des hommes. Ah, ça, je pense que ça n'existe plus.
On continue à apprendre le métier tous les jours quand on est journaliste.
Alors, je vais donner une vision un peu idéalisée, peut-être, du métier de journaliste. Mais journaliste, c'est être payé pour poser des questions. Enfin, quelque part. Bon, après, il y a plein de trucs qui sont beaucoup plus pénibles que
moi,
ça.
Je préfère dire que c'est être payé pour écouter les réponses.
Écouter les réponses aussi. Non, mais bien sûr. Ouais. Mais voilà, donc quand on aime poser des questions et quand on aime apprendre, en fait c'est ça, c'est-à-dire on apprend. Est-ce qu'on apprend tous les jours ? Oui, moi j'ai l'impression d'apprendre tous les jours. Et alors je vais rebondir sur quelque chose qui n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais c'est une citation de Mandela qui lui a attribué, qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc voilà, on apprend tous les jours.
On va devoir conclure cet entretien parce que derrière, on a une émission qui dure une heure consacrée au documentaire Pierre Monroy, le père de la décentralisation, signé Carole et Joris, à venir donc maintenant dans 5 minutes, restez avec nous. Avant tout ça, toute dernière question, est-ce que vous regrettez finalement de ne pas être dans le jury du plus de 40 ? Parce que c'est une position que vous avez. Généralement, au cours des débats, le jury là n'est plus là. Hein. Mmh. Voilà, vous animez les débats. Ouais. C'est plus agréable de quoi ? De faire partie du jury ou d'être dans l'échange ?
C'est bien de varier. L'an dernier, j'étais dans le jury. Je trouvais que c'était passionnant, mais c'est passionnant aussi de pouvoir suivre plus tranquillement. Ouais.
Vous faites votre pronostic au fur et à mesure que les films.
J'ai des coups de cœur, mais bon, après j'en ai déjà vu pas mal en fait. Ouais. Hein, mais de ce que j'ai pu voir en tant que jury, c'est que les choses sont pas acquises et au dernier moment, il peut y avoir des changements. Moi j'ai clairement des coups de cœur, mais c'est pas moi qui décide.
Et le coup de cœur pour Doué, ça y est, c'est fait ?
L'an dernier déjà. L'an dernier, c'était. Je suis venue, je me suis dit waouh, et tout le petit canal et tout, je me suis dit, incroyable, quoi. C'était petit coup de cœur pour Douai, ouais, absolument. Et le musée à côté, magnifique. Enfin, c'était grande découverte, grande surprise. Et j'ai mon papa allemand,
oui,
qui n'est pas loin d'ici, à Somain.
Ah bah oui, c'est juste à côté.
Bah voilà. Donc je me dis qu'il va falloir que je revienne parce que là j'ai pas le temps d'aller à Somain, mais bizarrement, hein, c'est un hasard de l'histoire, un petit peu comme. Comme on a vu hier, le film de fiction, il y a des hasards de l'histoire comme ça qui fait que... Voilà.
Merci beaucoup.
Donc, peut-être que je peux me considérer un peu de... Enfin, voilà.
Mais de toute façon, du moment où on est bien, on est en famille et il n'y a pas de souci. Antonin, je te donne 3 minutes pour peut-être nous parler de Russie, le prix de la vérité.
Allez, 3 minutes, c'est parti.
Allez, 3 minutes.
Russie, le prix de la vérité, donc réalisé par Patrick Forbes, si je ne me trompe pas et que je le prononce bien. Donc c'est un documentaire sur Dimitri Mourakov, donc le rédacteur en chef du média indépendant russe Novia Gods. Alors attendez parce que j'ai du mal à le prononcer. C'est
Novaya Gazeta.
Merci beaucoup.
Ah bah voilà.
Il faut que je travaille mon russe.
Oui, impérativement.
C'est ça. Qui le suit pendant le début de la guerre en Ukraine, donc de 2022 à 2020, jusque 2023 à peu près. Et donc, lui, comment il vit en tant que rédacteur en chef cette déclaration de guerre à l'Ukraine. Et. En fait, j'ai trouvé le film véritablement intéressant et j'en ai appris beaucoup sur comment dire, ce qu'est être un journaliste avant tout. Et là, vraiment, c'est transmettre, peu importe les risques, la vérité à son peuple, mais également passer au-delà des interdictions, voire même flirter avec elle pour limite narguer le Kremlin en disant voilà, j'ai réussi à faire passer la vérité malgré vos interdictions. Et d'ailleurs ce monsieur dit Dima, donc Dimitri, qui a eu le prix Nobel de la paix, il a vendu son propre prix Nobel pour venir en aide aux Ukrainiens, aux immigrés ukrainiens. Et j'en ai discuté avec un collègue tout à l'heure, c'est que en fait c'est un héros, voilà, pour un peu un héros de la Russie, un peu une voix qui s'est élevée en Russie au-delà de la censure et de l'endoctrination de Poutine, mais et au-delà de ça, qui avant tout protège ses journalistes, ses amis, ses collègues des conséquences qu'il peut y avoir. Et franchement, voilà, pour moi, c'est un gros coup de cœur et une belle image de ce que doit être le journalisme.
Voilà, Antonin qui est actuellement avec Micro Rebelle également.
C'est ça.
Nos amis du côté de Lens, toujours envie de devenir journaliste après ça.
Oui, et je dirais peut-être alterner entre le journalisme, la fiction, et pourquoi pas faire du docu-fiction, faire un mélange des deux, et pour, donner un peu plus de gaieté à une vérité, sans non plus la dénaturer ou la rendre moins violente ou agressive.
Ouais, et accessible, compréhensible. Merci beaucoup. Ça se conclut. Demain, tu reviens, tu nous parleras d'Afghan.
Oui, c'est ça. Et sûrement d'un autre film. Je ne sais pas encore lequel, mais j'irai en voir un autre.
Demain, nos invités, nous serons entre autres avec des élus douaisiens pour nous parler du FIGRA dans les quartiers, parce que c'est le temps du festival ici, Centre-Ville, mais ça vit tout au long de l'année, le FIGRA, ici, à Douai, notamment avec les associations de quartiers. Et puis, nous serons également avec la photographe Véronique de Vigry, qui expose au musée de la Chartreuse une exposition, La vie en rose. Tu seras avec nous demain, Carole.
Bien entendu.
On cède l'antenne, on est pile poil à l'heure et ça tombe bien à venir Scarpe-Ciné consacré donc au documentaire à propos de la décentralisation portée par Pierre Mauroy. Merci Virginie Herz.
Merci.
Voilà, et à bientôt, je l'espère, sur le 94.10. Je souhaite une excellente soirée.